L'invité du jour.
Vous êtes bien sur Radio Orient. Gros plan sur le fait que les associations alertent contre une proposition de loi qui vise à mettre fin à plus de 40 ans de présence associative dans les centres de rétention administrative. Le Sénat a voté le 12 mai dernier une loi visant à mettre fin à cette présence. Avec nous, le président de la CIMAD, Henri Masson. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Comment vous avez compris cette décision ?
Très clairement, nous ne l'avons pas compris. Vous indiquez en introduction que les associations sont dans les centres de rétention administrative depuis 40 ans. Je dirais même que jusqu'en 2010, nous étions la seule association à être présente depuis 1984, effectivement, dans les centres de rétention. À la demande du ministre de l'Intérieur de l'époque, Pierre Joxe, qui avait considéré que dès lors que l'on institutionnalisait les centres de rétention, car il y avait des centres de rétention, en particulier à Reims, mais qui étaient un peu secrets, dès lors qu'on officialisait les choses, il fallait effectivement qu'il y ait des structures qui puissent accompagner les personnes qui étaient retenues dans ces centres de rétention et qu'elles puissent avoir un accès à leurs droits, c'est-à-dire pouvoir faire des recours contre leur enfermement et aussi contre leur obligation de quitter le territoire français, puisque l'on enferme dans les centres de rétention des personnes que l'on cherche à expulser et qui sont très souvent, qui ont été effectivement désignées dans une obligation de quitter le territoire français. Alors nous n'avons pas, bien entendu, compris ce genre de décision, c'est d'autant plus que l'argument du ministre de l'Intérieur, Retailleau, était de dire que les associations étaient en conflit d'intérêts. Et je ne vois pas de quel conflit d'intérêts il peut s'agir.
Le ministre de l'Intérieur qui vous reproche d'outrepasser vos missions et de les retourner en réalité contre l'État en entravant son action par pur militantisme.
Alors que nous soyons militantes, ben, écoutez, je rappelle toujours effectivement la formule du président de la République Emmanuel Macron parlant de la CIMAD, disant que c'était un aiguillon du gouvernement. Donc effectivement, un aiguillon, ça permet de faire avancer les choses. Quand on parle d'associations militantes, cela veut dire, dans l'esprit de Monsieur Retailleau, que l'on s'oppose effectivement à toute décision de l'État et qu'en conséquence de quoi, on va à l'encontre des décisions de l'État. C'est rêver tout éveillé. D'abord, je rappelle que sur la totalité des personnes qui passent dans un centre de rétention, 44% de ces personnes sont sorties de ces centres de rétention par décision de justice ou même de la préfecture. Cela veut dire que les recours qui sont faits, recours administratifs ou recours judiciaires, sont tout à fait utiles et que notre rôle essentiel, c'est effectivement d'expliquer à ces personnes quelles sont les possibilités pour elle, effectivement, de s'opposer aux deux décisions importantes, c'est-à-dire l'enfermement dans un CRA et l'obligation de quitter le territoire français. Notre position, c'est pas de prendre la décision. Ce n'est pas nous qui décidons, effectivement, de la sortie d'un centre de rétention. Néanmoins, et c'est notre mission, c'est la mission des quatre autres associations, c'est-à-dire des cinq associations qui sont actuellement présentes dans les centres de rétention, c'est d'expliquer au public ce qui se passe effectivement dans ces centres de rétention. Et nous publions pour cela un rapport interassociatif qui décrit année après année effectivement ce que nous avons pu constater.
Et pourquoi l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est un organisme placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, le Sénat souhaite confier justement le rôle d'information sur l'accès aux droits de l'étranger à cet office, pourquoi ne serait-il pas compétent pour mener cette mission ?
Je ne dis pas qu'il n'est pas compétent. Ce que je dis, c'est que lui est en total conflit d'intérêts, effectivement, avec la mission qui est celle de la défense des droits des personnes retenues dans les centres de rétention. Quelle est la mission de l'OFI ? La mission dans les CRA est de donner une information pour le retour vers le pays d'origine, c'est-à-dire pour la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Comment voulez-vous que, effectivement, une personne retenue dans un CRA se sente effectivement très normalement informée de toutes les possibilités qui s'offrent à elle pour s'opposer à une décision de l'administration, lorsqu'elle rencontre quelqu'un qui va d'abord, parce que c'est sa vocation, parce que c'est sa mission, qui va d'abord effectivement lui expliquer comment elle doit retourner dans son pays et lui expliquer quelles sont les différentes possibilités de repartir dans son propre pays. Il y a là une très très profonde contradiction. Je rappelle que c'est le Conseil d'État, en 2009, avait indiqué que effectivement l'indépendance des personnes morales qui étaient sélectionnées était importante dans les centres de rétention et que le plan européen souligne aussi que l'accompagnement juridique dans les centres de rétention ou les équivalents que l'on peut trouver dans d'autres pays, je veux parler du pacte sur l'asile et l'immigration, indique que cette information et le soutien des demandeurs d'asile, par exemple, comme des personnes effectivement en recherche de statut juridique, doit être fait par des personnes reconnues et habilitées par le droit national, dont les intérêts ne sont pas en conflit avec ceux du demandeur. Là, nous sommes en parfait conflit avec entre le souhait de la personne qui est dans un centre de rétention et qui souhaite rester en France éventuellement, et le souhait du ministère de l'Intérieur qui souhaite l'expulser.
Quelles sont les conditions de vie des personnes qui sont dans ces centres de rétention ?
Voilà un sujet que notre rapport interassociatif chaque année effectivement met en lumière. Les conditions sont des conditions quasi carcérales. Si je dis quasi, c'est parce que ce ne sont pas des prisons, ça ne relève pas du ministère de la Justice, ça relève effectivement du ministère de l'Intérieur. Et il n'y a pas de gardien de prison. La protection, effectivement, de ces centres est assurée par la police aux frontières. Mais ce sont des lieux dans lesquels, effectivement, les personnes couchent à plusieurs dans des chambres, ont un espace de liberté limité. Et très souvent, bien évidemment, dans une cour sans arbres, sans forcément même de banc pour s'asseoir, et avec des grillages très élevés. Vous y trouvez des populations qui sont variables, de plus en plus de populations venant de prison, c'est-à-dire des personnes étrangères qui ont purgé une peine de prison pour tel ou tel délit et que l'on envoie dans des centres de rétention avant leur expulsion, mais aussi des personnes qui, effectivement, ont été arrêtées dans la rue, dont on a constaté qu'ils n'avaient pas de titre de séjour, effectivement. La confrontation entre ces deux populations est très difficile. On y enferme aussi des personnes qui devraient être plutôt dans des hôpitaux psychiatriques, je pense en particulier. On y enferme des personnes malades qui n'ont pas forcément accès immédiatement, et c'était là l'un des rôles des associations, qui n'ont pas immédiatement accès à leur famille et donc qui doivent interrompre des traitements qui peuvent être éventuellement vitaux. On y enfermait, effectivement, on continue à le faire à Mayotte, des familles avec des enfants. La France a été condamnée au moins 7 ou 8 fois par la Cour européenne des droits de l'homme, effectivement. ces conditions ne sont bien évidemment pas des conditions de qualité. On ne peut pas en douter.
Est-ce que ces personnes peuvent communiquer avec l'extérieur ?
Alors, elles peuvent communiquer avec l'extérieur grâce aux associations. C'est-à-dire que, effectivement, l'une de nos missions est de permettre à ces personnes d'avoir un contact avec leur avocat, avec leur famille éventuellement. J'ai parlé tout à l'heure de traitements médicaux, mais aussi de documents qui vont permettre de construire leur défense face au juge judiciaire ou au juge administratif. Mais sinon, elles n'ont pas accès, sauf à des cabines téléphoniques, pour pouvoir rentrer en contact avec leur famille. Ce sont des conditions spartiates, dures et difficiles, et qui, effectivement, deviennent très vite insupportables pour ces personnes.
Vous regrettez le fait que la durée de rétention administrative maximale soit nettement augmentée?
La durée a progressivement augmenté au long des 40 ans, puisque, je vous le disais, la CIMADE intervient dans les CRA depuis le début de cette mission, c'est-à-dire depuis 1984. Il est clair que la durée de présence maximale dans un CRA ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, on en est à 90 jours. Or, 90 jours, c'est déjà trop long, puisque ce que nous savons, c'est que pour qu'une personne puisse être expulsée, si elle n'a pas de titre de voyage, c'est-à-dire passeport ou carte d'identité, elle doit avoir ce que l'on appelle un certificat consulaire. Or, les ambassades qui sont contactées remettent traditionnellement les certificats consulaires dans les premiers jours, effectivement, et lorsqu'elles ne les ont pas remis dans les premiers jours, elles vont les remettre de plus en plus tardivement pour des raisons X, Y ou Z.
Merci, Henri Masson.
C'est moi qui vous remercie.
Je rappelle que vous présidez la CIMADE, cette association de solidarité avec les personnes migrantes, réfugiées et en demande d'asile. Merci à vous et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
L'invité du jour.